I know that the audience likes, you know, cliches.
Right.
It's really being sarcastic, being cynical, I guess. Can't avoid being cynical.
Contrôler sa destinée. C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À vos Richardos.
Une page d'histoire mise en récit par un texte des archives et des musiques choisies. Chaque dimanche à 15h sur France Culture, voici Jukebox. Bonjour à tous. À son sujet, on a souvent parlé d'icône, propulsée star du rock alternatif grâce à sa participation en 1967 au premier album du Velvet Underground. La chanteuse Nico avait pourtant tenté par la suite de s'arracher à cette image éthérée, de creuser son propre sillon. À une époque où la réalisation de soi par les arts semble à la portée de tous, où la drogue trompe les perspectives, elle avait poursuivi une quête personnelle, sombre, déroulant de sa voix sépulcrale des textes ciselés. Adulée par les uns pour ses expérimentations et son lyrisme, détestée par les autres pour sa beauté et son désespoir sans issue, aujourd'hui le destin triste et fracassé d'une fille trop belle, d'une âme trop sensible qui avait toute sa courte vie durant cherché à fuir ses démons. Aujourd'hui, Nico, un malentendu. Comment raconter son histoire sans tomber dans les travers de l'époque qu'il avait enfantée ? Ce chic de l'underground, le name-dropping, la fascination d'un temps qui se piquait d'être toujours plus arty, décalé, sous substance. Comment échapper à la célébration des icônes qu'on adulait alors tout en rêvant de les brûler ? Comment éviter la complaisance ? Prenons-la vers la fin. Pas à la toute fin, cet accident de bicyclette stupide qui lui coûtera la vie à Ibiza un jour de l'été 1988, mais juste un peu avant, quelques années plus tôt, tandis qu'elle est à Manchester. Nico vient d'arriver sur place, dans cette ville grise, post-industrielle. Le décor est lugubre, mais justement, ça lui plaît, cette ville laide. Entre deux shoots d'héroïne, dans les veines qu'elle parvient encore à trouver, elle chante, immobile, noyée dans la fumée d'une cigarette. À l'inverse des autres rockers, elle est calme, s'épargne les poses, les gestes enflammés, les postures guerrières. Seules ses lourdes bottes de motarde, l'ancre au sol. Le public vient la voir comme on viendrait voir un vestige figé dans une splendeur passée. Il s'impatiente de ses attitudes distanciées. Elle est parfois obligée de lui aboyer dessus. Et ça n'est que lorsqu'elle annonce une chanson composée jadis par Lou Reed qu'une clameur s'élève du parterre. Ça la désespère. Mon cœur est vide, mais les chansons que je chante sont emplies d'amour pour toi. Parfois, l'amour ne se montre pas, parfois il ne sait même pas. Montre-moi comment prévenir la lumière du matin, je la poignarderai de ma main, le soleil aveuglant, le cœur battant quant à l'avenir.
My heart is empty, but the songs I sing are filled with love for you. A man said that to me, that's how I know love it does not show. Sometimes it does not even know. A here is no witness to my anger. When it stabs until it dies, I am looking for the strangler to help me with my crying. I will stab it with a knife. The blinding sun, the heartbeat for the time to come.
My heart is empty, ainsi chantait Nico à la fin de sa vie ici à Rotterdam en 1985. À une époque où dans le même temps, à longueur d'interview, on ne cessait de la questionner sur son passé, sur l'époque glorieuse du Velvet Underground, à croire qu'on ne peut avoir qu'une seule vie.
Well, I only sang three songs with them.
Je n'ai joué que trois chansons avec eux. Le reste du temps, je jouais du tambourin derrière. Idem quand j'étais mannequin, c'est mon image qu'ils voulaient.
I was there for my image. Look, my life started after the experience with the Velvet Underground.
Ma vie a commencé après le Velvet Underground.
I'd rather we talked about the present and.
Je préfère qu'on parle du présent.
About the songs I'm singing now, about the record I'm on tour with.
Une interview, justement, ainsi que la mettait en scène Susanna Nicchiarelli dans son film Nico 1988. Alors justement, pour saisir ce hiatus, remontons le temps, replongeons au début de Nico, l'égérie, la blonde vaporeuse. À l'époque, elle est à Paris. Mettons qu'elle déambule le long du boulevard Saint-Germain. C'est une ravissante poupée d'une vingtaine d'années, quand en raison de sa teinture blonde, beaucoup prennent pour une Suédoise, tant il est plus pratique alors pour un mannequin d'être scandinave qu'allemande. Repérée quelques années plus tôt, alors qu'elle travaillait comme vendeuse de lingerie dans un grand magasin de Berlin, celle qui s'appelait encore Christa Päffgen avait été prise sous son aile par un photographe qui l'avait rebaptisée et fait de cette élégante adolescente d'1m78 le mannequin le plus demandé du pays. Après ça, tout est allé très vite. Elle a voyagé aux États-Unis, mais aussi à Ibiza. Et puis donc, elle a rejoint Paris, où, prise en charge par un autre photographe allemand, Willy Mewald, elle a découvert Saint-Germain-des-Prés, le tourbillon des studios, l'effervescence des caves où résonne le jazz. Un soir, elle a croisé Chet Baker qui chantait « My Funny Valentine », lui faisant miroiter sa première dose d'héroïne. « Devenue cover girl, grâce au photographe français Jean Lucieff, Nico fait la couverture de Vogue, du Jardin des Modes, de Caméra ou d'un numéro de Elle spécial Noël. Elle y endosse tous les rôles féminins que lui dictent les directeurs artistiques et les Trente Glorieuses. Mais qui est véritablement Nico? Le sait-elle elle-même? À son âge, c'est peu probable. À 17 ans, elle est embauchée par Coco Chanel, mais elle lâche son boulot pour s'envoler à New York. Elle souhaite alors élargir son spectre. Elle aimerait se frotter au cinéma. En 59, justement, elle est de passage à Rome, où elle rencontre Fellini, qui s'apprête à tourner la Dolce Vita. Subjuguée par sa beauté, le maître italien lui lâche « J'ai rêvé de toi, à la lumière des bougies, tu seras magnifique ». Alors la voilà embarquée sur le tournage du film, incarnant son propre rôle et croisant, dans la folie de la Via Veneto, la route de Marcello Mastroianni.
Nico!
Marcellino, bruttissimo, cattivo, froci, bene.
Dove vai?
A Bassano di Succi, nell'un castello del mio fidanzato.
Perché non mi ci porti?
Oh sì!
Senti, ti ha cercato paparazzo, voleva farti un servizio sul Jardin des Modes.
Sì? Ma io non faccio più fotografie di moda da un anno, basta.
Nicolina!
Ecco la macchina!
Nico est timide, mais elle apprend vite. En quelques années, outre l'allemand, elle parle déjà le français, l'espagnol, l'italien. Alors Fellini ne lui demande qu'une seule chose, parler. Pendant tout le temps qu'elle apparaît dans le film, plus de 12 minutes, elle jacte sans arrêt, dans toutes les langues, improvisant de petits poèmes. Peu importe le fond, dans la Dolce Vita, l'important n'est pas ce qui se dit, tout est dans le portrait d'une époque décadente et la fuite en avant d'une génération, celle des enfants de la guerre. Nico est de cela. Après cette expérience féliniesque, Nico souhaite continuer dans cette voie. Elle est pressentie pour jouer dans Plein Soleil, que s'apprête à tourner René Clément. Mais le jour de son audition, elle oublie de se lever et c'est Marie Laforêt qui est engagée à sa place. Et quelques mois plus tard, on lui propose un nouveau rôle. Le film, Striptease, est une comédie, une sorte de Dolce Vita à la française que prépare le réalisateur Jacques Poitrenaud. Elle y incarne une jeune Allemande ayant quitté sa troupe de danse pour devenir stripteaseuse dans un club dirigé par Darry Cole. Elle y gagne argent, notoriété et les faveurs d'un riche playboy. Outre son rôle, dans lequel elle ne brille pas vraiment, on lui fait également enregistrer la maquette de la chanson du film, signée Gainsbourg et Alain Goraguer, recyclant le thème de l'eau à la bouche.
Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Moi, jour après jour sans pont, une à une est mes illusions. À chaque nuit, un autre automne, s'effeuillerait bien mon automne. Et tout ceci pour qui, pourquoi? Est-ce pour lui, est-ce pour toi? Si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu sois dit entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Mais ce ne sont là que chimères. De ma bouche à ma jarretière, car personne, pas même toi, ne portera la main sur moi. Ici s'achève le striptease qui te grise et m'idéalise. Voici la chair de la poupée, des vêtements éparpillés. Pourtant, si je suis toute nue, je garde mon âme à genoux et je reste en tout point pareil, là dont le plus simple apparaît.
Malgré son charme, la version de Nico de ce striptease enregistré en 62 ne convainc pas Gainsbourg. La chanson sera finalement réinterprétée par Juliette Gréco. Ces années sont difficiles pour Nico. Elle ne s'impose ni comme chanteuse, ni comme actrice. Sa prestation dans Striptease ayant révélé les limites de son jeu, ses expressions, ses mimiques un peu surjouées, sa mauvaise diction, ses mains dont elle ne sait pas quoi faire. Elle a beau avoir suivi, quelques mois plus tôt, les cours du célèbre Lee Strasberg, elle ne reste qu'une aimable potiche. Il est temps pour elle d'aller voir ailleurs. La musique lui offre pourtant des opportunités, comme lorsqu'en 63, elle chante sur la scène d'un club de New York, sans convaincre. Puis, de retour à Paris, elle croise la route de Bob Dylan, qui vient de publier son deuxième album. Le coup de foudre est réciproque. Ils s'enferment pendant une semaine pour travailler, avant de s'envoler ensemble en Grèce. Elle doit, pour vivre, continuer le mannequinat. Elle travaille notamment à Londres, capitale vibrante des 60s. Et c'est là qu'elle fait la connaissance de Brian Jones, des Rolling Stones, mais aussi le manager des Stones, Andrew Log Holdham, qui lui fait enregistrer en 1965 deux titres, produits notamment par Jimmy Page, The Last Mile, mais aussi ce I'm Not Saying, avec Brian Jones à la guitare. Nico, I'm Not Saying, 1965.
Comment est-ce que tu as rencontré Lou Reed et John Cale avec qui tu avais joué au début du Velvet Underground il y a 4 ans? Comment est-ce que tu les as rencontrés?
Oh, je les ai vus dans un café à Greenwich Village, le café bizarre. Et j'étais très très impressionnée.
Avant que le Velvet Underground soit formé, tu as rencontré Andy Warhol?
Oh oui, je l'avais rencontré chez Castel. J'allais danser, et Andy aussi, avec ses amis. Et on dansait tous ensemble. On dansait des danses à la Marquis de Sade.
Et donc un soir, alors qu'elle est encore à Paris, sortie pour danser chez Castel, elle y rencontre Andy Warhol, venu lui inaugurer une exposition dans une galerie parisienne. Elle s'approche de lui, lui parle de ce qu'elle fait, ou plutôt, stratège, elle énumère les gens avec qui elle a travaillé. Elle cite Gainsbourg, Fellini, Bob Dylan, Brian Jones. Il n'en faut pas plus pour impressionner Warhol, qui l'invite à le rejoindre à New York. La Factory, où Nico débarque en novembre 1965, à la faveur d'une séance de photos prévue à New York. Elle y découvre ce vaste loft aux murs recouverts de papier d'aluminium ou de peinture argentée et où trône en majesté les toiles pop qui ont fait la renommée de Warhol. Or, le pape du pop art se cherche lui aussi. Il ne peint plus, il a commencé à tourner des films avec son caméraman et assistant Paul Morisset. Ce dernier s'entiche immédiatement de Nico. Warhol l'a fait poser pour un bout d'essai, ce qu'il appelle ses screen tests, lui demandant, comme aux autres, de ne pas jouer, d'être simplement elle-même. Censé révéler la personnalité profonde de la personne filmée, l'exercice est facile pour Nico, qui sait si bien feindre, rêvasser, les yeux fermés. Enfin, écrit Serge Ferret dans son livre Nico, femme fatale, enfin on ne lui demande plus de jouer un rôle comme le faisait Jacques Poitrenaud. Warhol, comme Fellini, comprend d'emblée qu'il n'y a que dans le sien que Nico excelle. Elle devient l'une des superstars de Warhol, ses égéries qui, comme Edith Sedgwick auparavant, ou comme plus tard Ultraviolet ou Viva, sont essentiellement là pour être jolies, pour flatter la mégalomanie de Warhol et se voir offrir leur quart d'heure de gloire. Nico, docile, se plie aux exigences, passe des heures à poser pour les pensums cinématographiques du maître, comme dans Chelsea Girls en 1966.
Chez Andy Warhol, le roi de l'opart et de l'underground movies. L'underground movies, c'est le cinéma des profondeurs. Un cinéma absurde, négatif et signifiant tout de même, paraît-il. C'est la grande vogue ici. On voit pendant 90 minutes un homme qui dort, un long baiser de 115 minutes ou encore une délicieuse prêtresse qui répète inlassablement « Allô, Plazait ». Celle-ci, c'est Nico, l'une des vedettes de la Dolce Vita.
It's really doing nothing.
Oh, that's all.
That's all.
Hello, Plazait.
Et voilà ce que ça donne.
Hello, Plazait.
All right.
Hello,
everybody get down on your face, man. Get ready, yeah. Okay.
Warhol, par ailleurs, se rêve producteur de musique. Peu de temps auparavant, Morisset, son assistant, a repéré un groupe qui traîne dans les milieux expérimentaux de New York, jouant notamment au Café Bizarre, du côté de Washington Square. Ce groupe, c'est le Velvet Underground, formé en 64 autour de Lou Reed et du gallois John Cale. Comme ils se sont fait virer du café où ils jouaient, Warhol les a fait venir à la Factory, où ils se produisent régulièrement lors de soirées mêlant musique, projection et performance. Sauf que pour produire leur premier album, Andy Warhol et surtout Paul Morisset, qui trouvent leur musique sinistre, leur imposent la présence de Nico. Lou Reed s'éprend instantanément de cette déesse blonde et il lui compose des titres dont « I'll be your mirror »,« Je serai ton miroir », chanson sur l'amour fou, l'amour cosmique. Pourtant, rapidement, des tensions apparaissent. Nico se voit prêter un statut de star par Warhol, grassement payé lors des concerts pour, estime les autres, ne pas faire grand-chose. L'enregistrement de l'album entre avril et mai 66 est compliqué. Les membres du Velvet se foutent d'elle, de son chant pas très juste. Pour I'll Be Your Mirror, il la harcèle afin qu'elle enchaîne les prises. Finalement, elle fond en larmes et c'est alors que surgit le bon essai. Il faut toute l'insistance de Paul Morisset pour que Nico puisse poser sa voix sur trois chansons de l'album, lesquelles deviendront des classiques, I'll Be Your Mirror, donc, mais aussi Femme Fatale, ou bien ce All Tomorrow's Parties, d'où sourdent les interrogations d'une femme. Quel costume pour apporter la pauvre fille à toutes les fêtes de demain? Une robe usée, d'on ne sait où? Où ira-t-elle et que devra-t-elle faire quand minuit arrivera? Elle redeviendra, encore une fois, le clown du dimanche et elle pleurera derrière la porte.
And what costume shall the poor girl wear to all
shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. Shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? Why, silks and linens of yesterday's gowns to all tomorrow's parties. What will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She turned once more to Sunday's clown and cry behind the door.
Le Velvet Underground et Nico pour ce All Tomorrow's Parties 1967. Avec I'll Be Your Mirror, ce titre sert de rampe de lancement à l'album. Mais l'aventure tourne court, Lou Reed ne veut plus d'elle, irrité par ses manières, ses interminables préparatifs en coulisses avant chaque concert, cette façon de faire brûler des bougies comme pour un rituel, mais surtout exaspéré par l'approximation de son chant. Elle, de son côté, ne se reconnaît pas dans cette musique, dans cette étiquette de femme fatale qui lui collera à la peau et symbolisera le malentendu la concernant.
It was a pleasure there. Could you just be here again?
Lorsque l'album paraît en mars 67 avec en couverture la fameuse banane sérigraphiée par Andy Warhol, Nico a déjà quitté le navire du Velvet. Elle continue de travailler comme mannequin pour gagner de quoi vivre, mais méprisant ce métier, elle a décidé de poursuivre la musique. Elle chante ces mois-ci sur la petite scène étouffante aménagée au Dôme, la discothèque branchée d'East Village. Elle s'y produit seule, mais aussi accompagnée de quelques musiciens, Jack Elliott, Tim Buckley, Tim Hardin ou Jackson Brown qui lui composent des chansons. L'ambiance pendant ces concerts est détestable. Des mecs graveleux la sifflent ou l'interpellent, même si, dans un coin, Leonard Cohen tombe fou d'elle. Elle voyage alors en Californie, y rencontre Jim Morrison, le chanteur des Doors, avec qui elle vit une courte idylle et aux côtés duquel, un jour dans le désert, elle expérimente le peyote, ce puissant hallucinogène. Morrison jouera un rôle majeur dans la suite de sa carrière. C'est lui qui l'émancipe, qui joue avec les lettres de son nom, l'appelle Icon, lui conseille de noter ses rêves et d'écrire ses propres chansons. Elle tirera de cette escapade à Death Valley un titre, le seul qu'elle composera pour son album suivant, intitulé It Was a Pleasure Then, titre qui passera relativement inaperçu derrière d'autres plus accessibles comme These Days ou The Fairest of the Seasons composé pour elle par Jackson Brown. Des titres dont Nico, qui n'a pas la main sur la production de l'album, ne supporte pas les arrangements. Signé Paul Wilson, l'ancien producteur de Frank Zappa et qui, alors qu'elle réclamait une batterie, des guitares, de la puissance, avait assaisonné l'ensemble de cordes un peu dégoulinantes et surtout d'une flûte. Lorsqu'elle écoute le résultat final, Nico s'effondre. France Culture, Jukebox, aujourd'hui Nico, la chute d'une icône.
Now that it's time, now that the hour hand is landed at the end, now that it's now that the dreams have given all they had to lend, I want to know, do I stay or do I go and maybe try another time? And do I really have a hand in my forgetting? Now that I've tried, now that I've finally found that this is not the way, now that I turn, now that I feel it's time to spend the night away, I want to know, do I stay or do I go and maybe finally spit the rhyme? And do I really understand the undernetting? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs carefully. Now that it's now, now that the candle's falling smaller in my mind, now that it's here, now that I'm almost not so very far behind, I want to know, do I stay or do I go and maybe fall another sigh? Do I really have a song that I can ride on? Now that I can, now that it's easy, ever easy all around, now that I'm near, now that I'm falling to the sunlight center sound, I want to know, do I stay or do I go? And do I have to do just one? Then can I choose again if I should lose the reason? Yes, and the morning has me looking in your eyes and seeing mine, warning me to read the signs more carefully. Now that I smile, now that I'm laughing even deeper inside, now that I see, now that I've finally found the one thing I deny, it's now I know, but do I stay or do I go? And it is finally I decide that I believe in the fairest of the seasons.
The Fairest of the Seasons, extrait de Chelsea Girl, le tout premier album solo de Nico, sorti en 1967. Mais pour elle, ça ne suffit pas, le malentendu subsiste. Libérée du carcan du Velvet, elle s'émancipe définitivement de l'influence de Warhol. Elle cherche son véritable style. Elle le trouve à travers le choix de l'instrument qui l'accompagnera dorénavant, l'harmonium, cet étrange orgue avant, un instrument qui n'a rien à voir avec le rock, qui est plutôt alors associé à Allen Ginsberg, le chef de file de la Beat Generation, ou à l'OVNI Terry Riley. Incarnant une sorte de syncrétisme musical entre Orient et Occident, l'harmonium, pour Nico qui ne sait ni lire ni écrire la musique, est l'accompagnateur rêvé. Elle travaille alors à la matière d'un futur album, tandis qu'elle vit à New York chez Viva, la nouvelle égérie warholienne. Là, les rideaux tirés, à la lueur de bougies, elle cherche les mots justes. Son écriture se teinte d'interrogations existentielles. Elle puise de l'inspiration dans la lecture des romantiques anglais, William Wordsworth, Coleridge, mais aussi Baudelaire ou Edgar Allan Poe. Elle mêle tout cela à du folklore celte, nordique, tout un substrat mythologique. Pour la musique, elle se rapproche de John Cale, le violoniste du Velvet avec qui elle partage des origines européennes, Cale étant gallois, et une vision de la musique décentrée des États-Unis. John Cale, qui est chargé des arrangements des morceaux, lui conseille par ailleurs de ne pas en imprimer les paroles afin d'en accroître le mystère. L'album Marble Index, sorti en 1969, constitue selon ses fans le véritable chef-d'œuvre de Nico. Elle, dont jusqu'alors l'ascension n'avait été qu'une fausse route. extrait de l'album The Marble Index, paru en 69, cette Harry Song, « Prends le large, mon petit garçon », en disent les paroles, « Laisse le vent emplir ton cœur de lumière et de joie, laisse la pluie laver le gris de tes journées. À présent, tu vois que seuls les rêves peuvent t'envoyer où tu veux te trouver. »
My only child, be not so blind, see what you hold.
Comme il paraît loin alors le temps de la pop girl de 1966. Sur la pochette de l'album, Nico paraît sombre, inquiétante. Cette Harry Song qui révèle l'une des déchirures de la chanteuse, même si la vie n'explique pas tout de l'œuvre. Ce fils, Christian Aaron, qu'elle avait eu en 1962 à l'issue d'une brève liaison avec Alain Delon, même si l'acteur avait toujours refusé de reconnaître l'enfant. Après avoir vécu avec elle les premières années, exhibé à ses côtés sur les films d'Andy Warhol, le petit garçon était tombé malade en sifflant les fonds de verre qui traînaient chez elle. Contre le gré de l'acteur, la propre mère d'Alain Delon, Edith, l'avait recueillie et élevée avec son nouveau mari. Harry, trop vite exposé aux errances de sa mère et qui par la suite souffrira des mêmes problèmes d'addiction qu'elle. Pour l'instant, Nico rencontre chez des amis à Positano, sur la côte amalfitaine, le cinéaste français d'avant-garde Philippe Garrel, de 10 ans son cadet, dont elle partage, des années durant, la vie et avec qui elle enchaîne les films, à commencer par La cicatrice intérieure en 69, déroulant l'errance d'une femme, de deux hommes et d'un enfant à travers les déserts de l'Égypte, de l'Islande ou du Nouveau-Mexique. C'est à cette époque que Nico découvre l'héroïne dont elle dira « c'est comme aimer quelqu'un que l'on hait ». Entre les tournages des films de Garrel, Nico, qui s'est fait lâcher par son label, continue d'écrire de la musique, toujours entourée de John Kell. Elle enregistre en 1970 « Desert Shore », marqué par des morceaux toujours plus sombres comme « Janitor of Lunacy », « Le gardien de la folie », mais aussi des morceaux plus tendres. fait tienne la volonté des autres, tu es belle et tu es seule, offense la peste adolescente, gratifie ta grâce, trompe ta faim, capture le faux, gratifie ta grâce. Afraid, extrait du troisième album solo de Nico, Desert Shore, paru en 70. Sa voix se fait alors plus assurée. Pourtant, la chanteuse traverse des années difficiles. Vivant avec Garel, l'héroïne, le LSD, Nico s'enfonce dans une sorte de rêve éveillé. « Je crois très fortement en la folie, ça me préoccupe beaucoup », dit-elle un jour en interview. C'est alors que sa mère meurt, mais Nico ne se rend pas aux obsèques, rongé par la culpabilité. Elle se remet à se produire sur scène, à l'harmonium, elle joue à Amsterdam, à Londres, en ouverture des Pink Floyd, mais elle reste le plus souvent en France. À cette époque, en janvier 72, elle retrouve Lou Reed et John Kell pour un concert au Bataclan, leur première retrouvaille depuis des années. Là encore, elle sacrifie aux caprices du public et réendosse le costume de la femme fatale.
Here she comes. You better watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows.
John Kell et Nico, Femme Fatale, enregistrée sur la scène du Bataclan en 1972. Deux ans plus tard, en 1974, Nico se produit à la cathédrale de Reims pour un concert d'anthologie, étrange et fascinant, où, derrière son harmonium, elle assure la première partie des Allemands de Tangerine's Dream. La cathédrale est bondée, les spectateurs allongés, à même le sol froid de la nef, beaucoup comme Philippe Garrel, planent. Ce concert est considéré par beaucoup comme l'acmé de sa carrière. Elle vient alors de faire paraître son dernier album, The End, hommage à Jim Morrison, mort 3 ans plus tôt, et pour lequel elle s'est entourée de nouveaux musiciens, de Brian Eno ou de Phil Manzanera, les deux ex-musiciens de Roxy Music. Pourtant, Nico continue de susciter l'incompréhension, comme lors d'un concert donné à la Neue Nationalgalerie de Berlin, où elle interprète l'hymne allemand. ou plutôt l'hymne dont s'était dotée en 1841 l'Allemagne des origines, celle qui se cherchait une unité avant le Troisième Reich, avant que les nazis ne suppriment deux des trois couplets originels, des couplets que Nico décide, elle, de réintégrer, comme pour dynamiter l'image policée de l'Allemagne fédérale des années 70. Elle dédiera d'ailleurs cette chanson à Andreas Bader, le leader de l'organisation Fraction Armée Rouge qui dénonçait la présence d'anciens nazis à tous les échelons de la société.
Je me fais mal interpréter. Par exemple, quand je chante le hymne allemand, les gens pensent que je suis la fille d'un nazi. Et c'est plutôt l'inverse.
Wird erst schön durch die Liebe, ganz allein nur durch die Liebe. Darum sehnt sie sich stets nach der Liebe, voll Verlangen nach der Liebe. Und sie wünscht, dass es ewig so bliebe, denn die Liebe macht so
L'Allemagne, c'est le vrai malentendu, le vrai traumatisme de Nico, celui de ses origines. Le destin tragique d'une petite fille née en 1938 à Cologne, deux semaines après la signature des accords de Munich, que son père avait abandonné avant de s'engager dans la Wehrmacht, tandis qu'à la radio, la voix grave de Sarah Lender faisait pleurer sa mère. En 1942, tandis que Cologne s'enflamme, Nico était parti avec sa mère en direction de Lübnau, 80 km au sud de Berlin, en pleine forêt de la Spree, parmi les pins et les aulnes. Là, elle vit chez le père de sa mère, qui est aiguilleur de la gare. Sous ses yeux défilent chaque jour les trains emportant vers l'est soldats ou déportés. Et puis quand ce n'est pas ça, c'est le cimetière situé juste derrière la maison où elle joue avec sa meilleure amie, la fille du fossoyeur. Et puis, au loin, le soir, on aperçoit le ciel rouge, c'est Berlin qui brûle. Comment se remet-on d'une telle enfance ? Cette histoire sombre, Nico la racontera souvent comme pour excuser ses obsessions morbides. Mais dans tout cela, qu'est-ce qui est vrai ? Sans doute le fait que, plongé dans ces années 60 et cette utopie partagée de changer le monde, certains, comme Nico, assument cette part de deuil, de culpabilité face à l'indicible, portant en eux des champs de ruines, des nécropoles, des sacrifices, incapables de passer à autre chose.
Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile. My heart, your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay.
La fin des années 70, si sa musique et son aura ont une certaine influence sur nombre de musiciens, depuis la scène post-punk, Suicide and the Banshees, jusqu'au psychédélique Kevin Ayers ou à Patti Smith, Nico connaît une longue descente aux enfers. Elle gâche toutes ses chances. Elle est constamment en manque, se trouve à voler pour pouvoir se payer ses doses. Au début des années 80, elle a pris du poids, elle est fatiguée. Elle vit alors à Manchester, dont elle aime l'atmosphère délabrée et les landes voisines. Elle radicalise encore son approche, s'habille tout en cuir, pantalon, bottes de motard et bracelet frappé d'une tête de mort au poignet. Accompagnée de groupes locaux, elle chante dans cette ville si musicale, celle de la New Wave, de Ian Curtis ou de Joy Division. Son public gothique vient voir une icône sans comprendre que le passé, c'est le passé. À la toute fin, elle décroche de l'héroïne, commence un traitement de substitution à la méthadone, essaye de faire un peu d'exercice, de manger plus sainement. En juin 88, elle se produit pour la dernière fois à Berlin-Ouest. Un mois et demi plus tard, le 18 juillet, elle se trouve à Ibiza en vacances avec son fils Harry lorsque, partie à vélo au cours d'une après-midi caniculaire, elle fait une chute. Sans doute victime d'une hémorragie cérébrale, elle décède à l'hôpital à 49 ans. Elle est enterrée aux côtés de sa mère dans un cimetière proche de Berlin, gagné par la végétation. C'est sur ce You Forget to Answer, extrait du tout dernier concert donné par Nico, que se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui. Nico, un malentendu. Merci pour leur préparation à Virginie Gresset, Lily Cornaert et Sophie Enoch à l'INA. À lire notamment Nico Femme Fatale de Serge Ferret chez Le Mot et le Reste, mais aussi Nico The End, signé Pierre Lemarchand et récemment publié aux éditions Densité. Toutes ces références, vous les retrouvez sur le site de Jukebox, depuis lequel vous pouvez réécouter cette émission, vous abonner au podcast et nous faire part de vos commentaires. À la technique aujourd'hui, c'était Nadège Antonini, Agnès Catou à la réalisation, au micro Amaury Chardot. À dimanche 15h pour un prochain Jukebox.
Answer, oh.